Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur un événement ou une problématique qui marque l'actualité cyber. Alors aujourd'hui, un épisode dédié à Mimikatz, un utilitaire qui va nous être présenté par Benjamin Delpy. Et donc les contributeurs Nos Limites Sécu aujourd'hui sont Eric Fraissinet.
Bonsoir.
Nicolas Prigent.
Salut.
Nicolas Ruff.
Grüezi.
Patrick Chambet.
Salut.
Et moi-même, Johan Ulloa. Donc Benjamin, déjà merci de nous rejoindre sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Oui, bonjour. Donc, merci de me recevoir. Donc, je suis Benjamin Delpy, un kiwi, un gentil kiwi, un très gentil kiwi des fois. Je m'intéresse beaucoup à la sécurité, mais c'est plus pour arriver à mes fins, pour faire un petit peu de la recherche, chercher à comprendre comment fonctionnent les choses. J'ai commencé à coder Mimikatz en 2007, ça va faire 7 ans maintenant, plus de 7 ans, afin de jouer avec des clés privées, des certificats, jouer à faire du passe-zoage puisque ça venait de sortir et je trouvais ça très impressionnant. Et au fil des années, je l'ai étoffé pour mieux comprendre comment fonctionnait Windows et un petit peu rigoler.
Pourquoi ce nom Mimikatz?
Pour me sortir de ces premiers noms techniques qui ne voulaient rien dire, comme KDLL Pipe, qui me parlait beaucoup à moi, mais qui était intenable finalement, même à taper lors d'une démonstration. Donc il a appris plusieurs noms, de KDLL Pipe, CapPipe, KDLL, CATS, et après même CATS, c'était un peu trop référence à une bande dessinée, que j'aime beaucoup. Mais Mimikatz donnait un petit côté gentil, je le trouvais plus facilement dans Google. Mimikatz, ça fait inoffensif, ça fait tout doux, ça... et ça donne un petit côté mignon, les gens retiennent, et moi aussi.
Tu parlais de passe de hache. Alors, est-ce que tu peux dire en deux mots en quoi ça consiste?
Le passe de hache, ça consiste à utiliser le hash d'un mot de passe pour s'authentifier plutôt que le mot de passe original. Dans les faits, ça fait vraiment beaucoup de bruit, beaucoup parler, puisque ça a l'air très impressionnant lorsqu'on fait une démonstration technique, mais finalement, ce n'est que l'utilisation normale du protocole NTLM de Microsoft, ou LM même, on revient à la base, qui fait qu'en entrée, le seul secret qui était utilisé n'est pas le mot de passe, mais le hash du mot de passe.
D'accord. Donc Mimikatz est un utilitaire qui sert principalement à faire du passe de hache.
On s'en sert de moins en moins. Vraiment de moins en moins sur ces fonctionnalités-là. Ça fonctionne encore beaucoup, puisque par protocole, ça fonctionne encore dans toutes les versions de Windows. Mais au fil du temps, je l'ai un petit peu agrémenté de fonctions rigolotes, comme le dump justement des mots de passe en clair de la mémoire de Windows. Et assez récemment, avec l'arrivée d'une nouvelle version de Windows, j'ai commencé à jouer avec Kerberos, faire des choses au nom encore plus vendeur, hein. Du Golden Ticket, du Silver Ticket, du Skeleton Key, il passe partout quoi, et d'autres techniques autour de Kerberos, enfin, même des petits exploits, des codages d'exploits pour arriver à jouer. En ce moment, la mode c'est Kerberos, ce protocole assez méconnu par les DSI.
Pas depuis MS14.068, mais bon.
Malgré deux mois après la correction par Microsoft, le patch n'est toujours pas déployé.
Oui, mais surtout que c'était un patch hors bande et je me souviens d'avoir entendu quelques histoires dans les entreprises où en gros ils prévoient des fenêtres et des contrats et des machins pour appliquer des patchs Tuesday, mais par contre s'il y a un patch hors bande, ils ne savent pas le gérer dans leur process.
Oh, bah, j'en connais quelques-unes en effet. Principalement et même exclusivement dans les faits, c'est sur les DC qu'il faut que ça se fasse et un reboot est nécessaire, donc les gens sont quand même un petit peu frileux.
Mais ça ne devrait pas passer au moins au mardi suivant?
Dans les faits, rebooter un DC, il faut que ça se planifie. Faut pas les faire tous en même temps. Donc, le temps qu'ils s'organisent, qu'ils comprennent. Enfin, malgré que ça soit marqué critique, vu qu'il y a marqué Kerberos, d'ailleurs, les gens ne connaissent pas trop. Ils se doutent même est-ce qu'on utilise Kerberos. Non, bon, bah, on ne le patche pas. J'ai déjà eu ces réactions-là aussi. Non. De grands moments autour de ce dernier correctif. Et ça va durer, hein, à mon avis, encore un peu.
Ça ressemble à quoi, Mimikatz, au niveau de l'architecture? C'est un truc avec plusieurs modules, c'est un seul gros bloc qui fait plein de choses. Comment tu l'as conçu?
Alors, je l'ai fait en basique 1.0. Non, plus. Voilà, avec plein de Goto.
Ah, fail.
Eh bien, je vais vous laisser maintenant. Je suis désolé pour cette remarque.
C'est le mal.
Non, plus sérieusement, je l'ai fait en VBScript. Non.
PowerShell, bien sûr.
Eh bien, j'aurais pu, et je pense que ça aurait été un bon pari sur l'avenir, et que j'aurais dû le faire, en fait, dans les faits comme ça. Mais c'est pas ce qui m'intéressait. Moi, je voulais apprendre à coder en C, parce que, en cours, à part faire Hello World et faire des boucles fortes pour des tableaux de multiplication, je m'ennuie un petit peu. Donc j'ai voulu un peu plus m'y mettre et avoir arrivé dans la vraie vie des API Windows. Donc je l'ai fait en C, avec plein de modules, avec une petite cohérence, quand même des modules qui sont réutilisables en dehors de Mimikatz pour d'autres projets à moi, ou des modules qui sont plus propres, avec un driver aussi qui peut servir dans certaines occasions, avec une librairie qui peut servir à faire filtre de mots de passe, provider de sécurité Microsoft, qui peut faire la librairie WinDBG, donc vraiment un bon couteau suisse. Mais l'exécutable, oui, est organisé autour de modules locaux, de modules haut niveau, et d'un joli icône en forme de kiwi.
Qui constitue la signature principale des antivirus.
Exactement. Je ne vais pas les citer, mais oui.
Une icône sur un truc en ligne de commande,
Oui.
Tu peux nous en dire plus? Pourquoi?
C'était important que je le reconnaisse parmi tous les exécutables visuellement quand j'ouvre dans Windows, parce que moi, je suis plutôt un Windowsien.
Ah, tu cliques sur le... D'accord.
Ah oui, je clique, j'ai bouton droit, exécutant en administrateur, des choses de ce type-là. Et puis, je trouvais ça joli.
Mais t'es du genre à avoir 50 000 icônes sur ton bureau ou...
N'exagérons rien. Non, en tout cas, ça me parle. En plus, en dehors de l'autocollant que je vois de plus en plus sur des PC, de temps en temps, je vois sur des screenshots, Mimikatz apparaît, ou je le vois sur un bureau, ou sur un DC, encore plus amusant. On le repère plus facilement quand même.
Alors, où est-ce qu'on peut se le procurer, cet autocollant? Tu vends des mugs, des t-shirts, des trucs comme ça, ou il n'y a pas encore de boutique en ligne?
Toujours pas de boutique en ligne, non, justement, non, il faut m'offrir des gâteaux, des choses de ce type-là, hein, c'est très important. Non, dans les faits, je l'en ai à peu près toujours sur moi, mais les gens sont assez timides en France pour me demander, à part ceux qui me connaissent. Autant en Amérique, c'était assez rigolo, les gens venaient à demander des autographes, au moment que je leur colle les autocollants, que je dédicace des autocollants, qu'après ils pouvaient même plus les coller, c'était à ce point-là, c'était assez rigolo. On a eu différents états comme ça, mais en France, non, il suffit juste de me croiser, de me demander, ça me suffit. Il n'y a pas non plus assez de groupies pour que ça me gêne encore, donc pas de problème.
Alors, la doc, elle est sur l'autocollant ou on la trouve où?
Alors, si c'était derrière l'autocollant, j'aurais été très efficace sur la syntaxe. Donc, non, c'est pas à ce point-là. Donc, derrière l'autocollant, par contre, il y a un kiwi en ASCII art, mais il y a surtout l'adresse de mon blog qui redirige vers plein de petits articles en français que les étrangers détestent, mais qui redirige surtout ensuite sur le GitHub de Mimikatz, que j'ai à force créé quand même, et j'ai commencé à faire un petit wiki en anglais sur GitHub. Voilà. Donc il y a un peu plus d'aide avec des lignes de commande qui peuvent servir à plein de personnes qui font des pentests, mais qui servent aussi à plein de gens qui ne font pas des pentests avec Mimikatz, malheureusement. C'est le revers de la médaille. En français, au moins, il y en avait un petit peu moins.
Alors justement, ça sert donc soit à des attaquants, soit à des gens qui font du pentest, et dans quelle mesure ça peut servir à un défenseur?
À un défenseur, ça lui permet très souvent, moi je m'en suis servi assez régulièrement sur des tas comme ça, à découvrir les rootkits qui peuvent être mis en mode noyau. Alors, Nicolas les connaît, on inscrit des drivers qui permettent d'intercepter les processus, alors pas les plus cachés évidemment, mais ça permet d'intercepter ceux qui ont chargé des pilotes pour intercepter des choses, ça permet de détecter les détours de Microsoft, les hooks qui sont mis sur des API par des processus malveillants ou non, on voit passer les antivirus par exemple dedans, ça permet de trouver les authentifications secondaires qui sont lancées par des attaquants pour se connecter par des lecteurs, donc ça permet de retrouver pas mal d'empreintes qui normalement nous sont cachées. Windows nous affiche pas les sessions secondaires, c'est vraiment caché dans les SASS. Là, visuellement, en deux, trois commandes, on en a une petite liste. Et pour certains rootkits qui sont quand même plutôt bien faits, qui utilisent des certificats pour chiffrer les disques durs des gens ou des fichiers pour les retrouver après, ou des clés privées RSA, ça permet aussi de retrouver les clés privées RSA, même si le certificat a été supprimé, des choses comme ça. Donc ça rend quand même pas mal de services.
Et donc, donne-nous un exemple de quelques enchaînements de commandes qui pourraient être utiles pour commencer à explorer, par exemple, la présence de ces rootkits sur une machine.
Alors, la présence du rootkit, c'est une commande très simple. Sur une machine où il y a des antivirus. Alors, il y a moins souvent des rootkits que des antivirus, mais pour se rendre compte un petit peu de comment ça fonctionne, une simple machine avec un antivirus, on lance Mimikatz, même en admin ou non, et on tape la commande MISC DETOURS, je crois, et ça va lister tous les hooks sur tous les processus qui peuvent être ouverts, qui ont été mis, alors tous les hooks que moi je connais en tout cas, qui peuvent être mis par des différentes trampolines ou différentes API de Microsoft DETOURS sur des processus. Alors, je ne vais pas citer de marque, mais on en voit pas mal, y compris les éditeurs français.
Non, mais je crois que ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que Mimikatz, c'est un super outil, même pour faire du debugging et des trucs comme ça, parce qu'il a un driver signé par Microsoft, donc qui permet de faire plein de choses, et que c'est pas du tout un outil de passe de hache. Enfin, c'est assimilé un peu rapidement à un outil de passe de hache, et maintenant Golden Ticket, parce que ça marche pas mal non plus, et tu pourrais peut-être en dire un mot. Mais ça fait beaucoup plus de trucs en termes de bas niveau, de debugging, d'introspection dans les structures du noyau, etc., quoi.
Oui, j'ai vraiment codé au niveau du noyau et juste avant que Microsoft, enfin, que mon certificat de signature expire, j'ai codé aussi des API qui pourraient te plaire, hein, Nicolas, qui permettent de lire et écrire n'importe où en mode kernel et même de faire une sorte de create remote thread, donc de lancer du code en noyau. Donc ça, mon certificat était encore valide à ce moment-là, mais j'ai eu l'heureuse surprise de constater que mon certificat, même expiré, fonctionnait très bien encore en mode noyau. Puisque Microsoft ne vérifie pas les dates de fin de certificat pour des raisons de compatibilité avec des éditeurs très mauvais en PKI. Donc ça fonctionne encore très bien, ce driver en mode noyau. Ouais, le driver en mode noyau fait quand même pas mal de choses. Surtout, mais effectivement, c'est plutôt pour le debugging en mode noyau. C'était plutôt pour moi, pour comprendre comment fonctionnaient les rootkits et les produits de sécurité.
Mais ben, tu vas pas le renouveler, ton certificat?
Pas besoin. Bon, en expiré, il fonctionne très bien.
Ah oui, tu veux dire que tu peux continuer à signer offline, il n'y a pas de vérification au moment de la signature, et donc
Non.
tu peux continuer à signer ce que tu veux, même avec un certificat expiré.
Exactement. Si tu fais bouton droit propriété sur le driver, il te dira que c'est invalide, parce qu'en mode userland, il vérifie la date, mais en mode kernel, il ne le vérifie pas.
Ah bah oui, parce que le kernel, il va pas. Oh.
Vérifier la date de fin, il pourrait le faire, mais ça serait un problème pour les éditeurs chinois, pour ne pas les citer, voilà, qui ne timestampent pas leur driver. Le timestamp permet de rendre valide une signature après la date de fin du certificat d'origine. Et si on n'a pas timestampé, la signature prend fin à l'expiration du certificat, ce qui n'est pas le but voulu. Donc, vu qu'il ne vérifie pas ça, eh ben, ça me permet de continuer. Et qui plus est, j'ai tenté un renouvellement en achetant un certificat, mais alors Global 5 refuse de vendre à des particuliers maintenant. Et DigiCert, par exemple, dès que c'est passé à leur contrôle sécurité, ça m'a été bizarrement refusé.
Oui, en fait, tu sais, tu peux créer un auto-entrepreneur, tu as un numéro de SIRET et après c'est réglé. Je crois qu'il y a plus de 15 000 entités qui disposent d'un certificat de signature Microsoft, donc.
De code, oui, ça doit être. Non, mais c'est pour ça. Mais après, ça coûte quand même un petit peu cher pour l'utilisation que j'en fais, qui est vraiment du loisir.
D'où la vente des autocollants et des mugs et des
Voilà.
t-shirts.
Voilà les t-shirts, les autocollants, 10 euros. Voilà.
Sinon, tu peux carrément vendre des kiwis aussi.
Oui, je les épluche aussi pour les gens qui sont. Vraiment, c'est impressionnant. Il faut.
Bon, est-ce qu'on peut se protéger là? Ou est-ce qu'il faut réinstaller son domaine tous les 15 jours?
Mais tu as lu la doc Microsoft avec la recommandation officielle, effectivement. La seule recommandation officielle, c'est que dès que quelqu'un est devenu admin de ton domaine, tu dois reconstruire ton domaine. Donc c'est quelque chose que je ne peux que recommander, puisque Microsoft le fait, il doit avoir raison. Je crois que l'ANSSI dit qu'il faut changer le mot de passe de KBTGT, mais je crois que ça fait tomber des sociétés. Donc moi, je dirais qu'il faut reconstruire le domaine.
Bon, ben, l'ANSSI, maintenant, ils disent qu'il faut reconstruire avec toutes les backdoors que tu peux mettre dans l'AD à droite à gauche. Disent que s'il y a une compromission à un instant T, il faut toujours reconstruire.
Oui.
Et comment tu peux te rendre compte de cette compromission?
Regardant tes logs? Non, il n'y a que ça. Finalement, il y a regardé les logs. Et encore, pour le Golden Ticket. Le Golden Ticket, malheureusement, il n'y a même aucun log qui peut le montrer. Le Golden Ticket, je vais juste l'expliquer parce qu'il est quand même assez rigolo. Toute la sécurité des domaines Microsoft, et même un petit peu Unix au niveau Kerberos, repose sur une clé qui ne change jamais dans la vie d'un domaine, à part quand on augmente le niveau fonctionnel ou à part qu'on est Mazdo et qu'on change manuellement. Et une fois qu'on a cette clé qui est très courte, hein, elle fait 16 octets, ou 32 si on fait de l'AES, on est capable de forger des tickets Kerberos de manière arbitraire, en mettant les données vraiment que l'on désire à l'intérieur. Donc si j'ai envie de mettre Eric Fraissinet était là, je peux le faire. Si je veux dire Nicolas Ruff est admin de domaine, je peux le faire. Si je veux mettre une injection SQL, je peux le faire. Je peux même mettre des caractères qui sont interdits dans les notificateurs. Je peux mettre tout ça dans un ticket, et tout ce qui apparaîtra dans les logs, c'est ce que j'ai moi mis dans mon ticket. Donc je peux même forger l'identité qui est vue par le domaine. Et ça, si un ticket est bien forgé, il ressemble exactement à un utilisateur légitime. Et s'il veut être rigolo, il peut même faire tomber des logs, des fois. Donc il n'y a pas vraiment de moyen de le voir, à part vraiment surveiller les activités, mais c'est plutôt la trace d'une connexion d'un admin du domaine en VPN à 3 heures du matin qui est plus louche. Mais ça, c'est du comportemental, encore une fois.
Ouais, il y a assez peu de gens qui l'investiguent. Parce que sinon, un utilisateur donné va généralement utiliser un poste de travail donné. Même si le gars utilise un poste dans un autre bâtiment, etc., tu pourrais éventuellement lever une alerte, mais en pratique.
Voilà. Et surtout que ces attaques-là, quand elles sont bien faites, ce sont des attaques qui sont réussies d'un point de vue événement. Et je connais peu de grosses sociétés qui auditent les succès.
Bon, et heureusement, les produits antivirus doivent tous détecter Mimikatz, non? Donc on est protégé.
Bah, Microsoft le premier, étonnamment. Pour une fois, ils ont pris les devants. Hein. À quelques jours de ma première conférence à Moscou, ils m'ont blacklisté immédiatement. Mais dans les faits, la majorité des antivirus, à chaque compilation, m'oublie. Et certains ont compris que j'utilisais le même icône, et donc on blacklistait l'icône, comme tu as pu remarquer, Nicolas. Ou ma bannière aussi, qui s'affiche avec le petit kiwi, j'en ai vu aussi. Ou mes fichiers de ressources. Mais dans les faits, sur les charges entre guillemets plus techniques, non, il n'y a pas forcément d'efficacité des points de vue antivirus, mais c'est tout à fait normal finalement, car ce n'est pas un virus, ce n'est pas un malware, ce n'est pas un ver qui se propage sur le réseau, c'est un outil et qui est même la bonne partie du temps peut-être légitime. Récupérer des clés privées sur des postes sur lesquels il y a eu une mauvaise manip, il n'y a plus beaucoup d'outils qui le font maintenant.
Et imagine qu'on l'utilise en réponse à incident dans la trousse à outils. Il y a des fonctions de journalisation des actions. Enfin, est-ce qu'il est propre en sortie?
Alors, j'ai activé une commande de log qui peut être activée vraiment au tout démarrage de Mimikatz, qui va tracer toutes les actions en plus de la sortie console dans un fichier. Alors, je suis pas allé jusqu'au vice de mettre un timestamp. Je n'en suis pas encore.
Ça manque.
Ça manque. Hein, normalement, vu que les actions se déroulent quasiment quand on fait bien le batch et qu'on a bien mis ces commandes line, ça se déroule en quelques secondes. Le timestamp serait pas forcément le plus utile. Mais effectivement, vu que je fais un peu de cryptographie, je pourrais m'amuser à ensuite signer le fichier en sortie avec un certificat d'entrée. Et là, on aurait quelque chose de très propre hein, sur ce sujet-là. Mais non, je suis pas allé jusque dans ce vice-là, puisque en fait, l'analyse forensique est utile entre guillemets à des fins d'analyse sécurité. Je vais être totalement honnête, c'est arrivé à la fin. J'ai commencé par l'inverse, j'ai cherché à faire des actions malveillantes pour comprendre comment elles fonctionnaient, pour ensuite en sortir une donnée de Mimikatz qui peut être utile pour les investigations. Et non l'inverse.
Mm-hmm. Pour un RSSI qui aurait envie de lancer un petit batch une fois par jour ou une fois par semaine, qu'est-ce que tu mettrais dedans comme opération?
Pour un RSSI?
Ouais.
Je dirais de pas le lancer. À un moment RSSI, je le laisse pas faire du technique. Hein. C'est pour ça. Non, il y a disons des MOE pour ça. Non. Mais un RSSI, ça me permettrait de dumper l'AD, mais pas seulement les HNTLM. La majorité des outils de dump d'AD qui servent à vérifier que les mots de passe ont changé, etc., sont très anciens et ne font que du NTLM. Or, ça fait belle lurette qu'on fait de l'AES, donc il manque la moitié des clés. Il manque aussi les clés DE, il manque aussi les clés DES. Ça permettrait aussi de vérifier qu'au passage, personne n'a activé la petite case à cocher, stocker le mot de passe en clair ou par GPO, puisque si le mot de passe est en clair dans l'AD, Mimikatz le dump aussi, sans arrêt de service, donc faut pas hésiter à s'en servir pour contrôler l'état de son AD.
Ben voilà.
Ouais, ça c'est des commandes qui peuvent être très intéressantes. Après, ça fait des gros logs quand même. Et on a aussi une commande qui est très intéressante sur la partie Mimikatz sur un Active Directory. Ça peut être vérifié qu'il n'y a pas de détours qui ont été mis, justement, puisque c'est ce qui permet de vérifier si des applications ont mis des hooks. Par exemple, est-ce que les Tonki, j'espère toujours avoir l'échantillon officiel qui a été fait, mais mon attaque à moi, entre guillemets, Mimikatz est lui-même capable de l'avoir.
Bah, c'est que le Tonki, elle est sur Virus Total, non?
Ouais, mais j'ai pas récupéré le sample encore. Je discute avec WoodBSD sur le sujet, pour voir s'il peut me choper une ou deux versions. Mais moi j'ai aussi mis des hooks pour y arriver. Ah non, la mienne, est-ce qu'on la voit? Non, je crois que la description que j'ai vue, c'est que l'officiel, je pense que je la verrai, puisqu'ils ont intercepté les fonctions officielles. La mienne, c'est peut-être un peu plus compliqué. En fait, c'est un mauvais exemple, puisque la mienne est plus cachée que celle d'origine, en fait. Désolé.
Ouais, mais sinon, si t'as pas accès à Skeleton Key, il y a des très vieux trucs comme Conboot ou Dreampack PL, qui lui, par contre, est plus disponible, je crois, sur le site officiel, mais qui sont des trucs ou qui font quasiment la même chose. C'est-à-dire que tu bootes en pré-boot, enfin, ils t'installent quelque chose sur la machine, en mémoire. Je veux dire, ils modifient oui, pas oui. De...
Ils altèrent les fonctions d'appel mémoire et ils patchent, je crois, MSV1.0 pour éviter l'authentification pour Conboot. Alors le patch de MSV1.0 est fait, et pas fait au début de l'API, donc je le verrai pas, parce que c'est pas un hook finalement qui est fait, c'est un patch. Et là, clairement, il y a très peu d'outils qui comparent la signature du fichier avec vraiment l'empreinte mémoire.
Moi, c'est t'as WinDBG qui fait ça avec la commande checkImage.
Oui, mais c'est pas le plus efficace d'un point de vue performance. Hein. Ça, je peux pas le faire dans Mimikatz. Et sans les symboles de débugage, c'est quand même un peu plus compliqué. Faut remapper tout ça. Non, moi, je me limite aux hooks qui sont faits, qui sont recommandés par Microsoft, hein, que l'éditeur de sécurité font. Je me mets dans la petite séquence de trampoline qui est au début de chaque fonction officielle.
Oui, une fonction qui avait été introduite par Microsoft, en fait, pour faire des patchs qui s'appliquent sans rebooter la machine. Et en fait,
le hot patch, oui.
Non, mais c'était pour ça qu'ils avaient conçu cette fonction. Ouais, enfin, c'est pour ça que toutes les DLL du système sont hookables, c'est parce qu'ils ont cette en-tête facilement patchable, pour qu'ils puissent diffuser des patchs qui protègent le système en hookant les fonctions vulnérables avant que la machine ait rebooté.
Chose qu'ils font tout le temps, puisqu'on n'a jamais rebooté des serveurs Microsoft. Hein.
Je crois qu'il y a un ou deux patchs qui ont utilisé ça. Genre, ils se sont grisés après avoir ajouté la fonction dans Visual Studio et donc.
Alors, dans les faits, j'utilise ça, mais en 64 bits, par exemple, ils n'ont pas mis les trampolines, ils ne sont pas toujours là, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué. Puisqu'en fait, dès le début, dans Mimikatz, j'ai mis vraiment un point d'honneur à coder tout de suite en 64 bits. Alors, en 2007, c'était un peu plus rare, puisque les petits outils de démo que je voyais étaient bien, ils faisaient le job, mais dans la vraie vie, les serveurs Exchange, par exemple, ça faisait longtemps qu'ils étaient exclusivement en 64 bits, et ça faisait aussi longtemps qu'on commençait à avoir des DC pour plus de puissance 64 bits. Donc il n'y avait pas beaucoup d'outils qui fonctionnaient sur les DC à l'époque, donc j'avais tout codé en 64 bits. Et ça fait quand même beaucoup de difficultés hein, quand on code vraiment en bas niveau d'être compatible dans les deux cas.
Oui, mais bon, je crois qu'on peut dire quand même que c'est plutôt bien codé, Mimikatz. Parce que il y a quand même un truc qui supporte, c'est le 64 bits et l'Unicode. Et
oui.
C'est un bon AD français avec un Jean-Michel avec des accents et des E accents, des guillemets, etc. Jean-Michel, c'est pas un bon exemple, mais.
François.
Un François avec un CCD, merci. Là, je peux te dire qu'il y a une bonne partie des outils américains qui se vautrent là-dessus.
Oui, qui se vautrent lamentablement et qui peuvent même cracher l'SASS sur un DC. Je l'ai déjà vu, oui. La première version de Mimikatz, quand j'avais mal l'Unicode, quand j'ai fait mes premiers tests, ça donnait des résultats, on va dire, intéressants. Et c'est pour ça, et c'est effectivement, entre guillemets, à cause du français que j'ai codé directement dès les premières versions en Unicode, ouais.
Oui, puisque de toute façon, dans n'importe quel AD français, t'as un compte qui s'appelle invité avec un accent, donc.
Et oui. Et qui s'affiche très mal sur Windows XP parce qu'il gère très mal l'Unicode en XP en 2003 par défaut dans la console. Oui. Voilà, c'est de grands débats, mais c'est aussi ce qui a fait un petit peu mon succès puisque j'ai pu montrer aux Russes leur mot de passe en russe. Et là, ça les a un peu calmés.
La question, c'est est-ce que tu arrives à les prononcer
en russe ?
Ouais, pouvoir les afficher, ça va, mais après pouvoir lire le cyrillique, c'est un autre boulot quand même. On fait le malin, mais il faut le prononcer après.
Yagavalyu Chuchupalowski.
Ok, ça me va. Et merde.
Attends, parce que maintenant dans Google Translate, t'as la traduction en temps réel de la voix, donc on pourra voir s'il a dit des conneries ou pas.
On serait pas en train de faire une promotion de Google là, toi, sur ce coup-là?
Ouais, 10 euros.
Pas le genre de Nicolas, ça saurait.
Attends, c'est Skype fait la même chose, donc.
C'est bien.
De manière générale, la technologie progresse, voilà.
10 euros quand même.
Ça vaut plus rien par rapport au CHF.
Oh, ça va. Et par contre, je profite d'avoir dit des bêtises et ça me permet de reprendre la parole. Finalement, en termes des usages qui sont faits de Mimikatz, évidemment, j'ose espérer que tu fasses pas un tracking sur chacune des machines chaque fois qu'on lance, ça t'envoie pas des messages, mais.
Les mots de passe, juste les mots de passe des gens, pas les messages.
Alors ça va, dans ces cas-là, me voilà rassuré. De toute façon, les mots de passe, on les trouve, mais finalement, tu sais à peu près la communauté, enfin, tu suis un peu la communauté, tu vois dans quel sens elle utilise le logiciel, parce qu'effectivement, on voit que c'est quand même extrêmement riche. Et très sincèrement, moi, l'usage que j'ai pu en voir dans 95% des cas, ben, c'est par exemple des étudiants qui débarquent et qui font, hey, super, on a vu Mimikatz, et puis après, et là, on est passé contrôleur de domaine, et c'est la fête, et c'est surtout ça, en fait. Et j'ai l'impression, quand les gens en parlent, que c'est surtout cet aspect-là, ou alors on en parle parce que, effectivement, dans les médias, c'est avec Mimikatz, maintenant, on peut faire ce truc en plus, et c'est toujours quelque chose pour faire peur, finalement. Enfin, en tout cas, dans les médias, c'est comme ça que ça se voit. Mais par contre, sur l'utilisation qu'en est faite, toi, t'as d'autres retours, ou effectivement, t'as l'impression que c'est quand même beaucoup pour ces usages-là?
Ben c'est beaucoup pour cet usage-là, hein, comme tu viens de le dire. Et dans les faits, c'est aussi un peu ce que je recherche. Pendant longtemps, j'ai été un petit peu un troublion à lever des alertes. Regardez, ça c'est possible, attention, c'est dangereux. Mais tant qu'on ne le montre pas, rien ne change. Donc effectivement, c'est bien qu'il y ait des petits étudiants qui arrivent et qui pônent un domaine avec. Parce que d'ailleurs, s'ils l'ont fait, majoritairement, c'est pas à cause d'une faille. Hein. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, dès le départ. Donc le fait qu'ils soient arrivés et qu'il l'ait montré, peut-être de manière peut-être un peu violente des fois, ça va faire changer les choses. Des fois, ça va même faire changer les choses tout court, parce que sinon, ça aurait même pas changé s'il l'avait pas fait. Voilà. Donc ça, c'est l'usage, moi, que j'aime bien, personnellement, et c'est aussi pour ça un petit peu que je l'avais codé, c'est aussi pour montrer les choses aux gens, hein, à ce côté-là. Je dis, oui, c'est possible, et je voulais faire en deux commandes, vous allez voir, c'est simple. Si c'est aussi simple, vous devriez vous sortir les doigts et coder quelque chose pour corriger. Ça marche même plutôt bien à Microsoft, hein, je suis allé le présenter au Blue Hat avec des amis, c'est aussi ce qu'on a fait. Après, les usages qui sont faits, donc il y a en pentest, c'est très 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 largement utilisé. Après, j'ai des petits rapports, hein, je vois les, donc, justement dans les Google Analytics, je vais faire un petit peu de promotion pour Nicolas encore. Hein. Dans Google Analytics, j'ai quand même des usages, un petit peu de visualisation de mon blog. Alors sur GitHub, ça manque un petit peu, mais sur mon blog, je voyais effectivement il y a beaucoup de Russes, de Chinois, d'Américains. Bon, je doute que ce soit pour des présentations qu'ils le téléchargent, mais beaucoup pour des pentests. Et après, les différents rapports, dont certains que Nicolas a pu m'envoyer très très rapidement, montrent qu'il n'y a pas que les pentests, il y a aussi des groupes qui sont pas super sympas, qui attaquent des PKI ou des casinos, qui s'en servent quasiment en version non modifiée. Voilà.
Alors, est-ce qu'il est prévu que les choses changent ?
Oui. Alors, dans mon code aussi, parce que je m'adapte, je suis Microsoft, mais Microsoft, un petit peu, à force de les titiller quand même, hein, les chatouiller le mammouth, ça fait des choses. Mais dans Windows 10, ils nous ont promis le jour et la nuit, mais on voit, pour une fois, je commence un petit peu à les croire. Hein. Dans Windows 8.1, ils ont quand même fait déjà un gros effort. Il n'y a plus de mot de passe en mémoire par défaut. Ils ont enlevé des choses. Considérablement, les empreintes mémoire des identifiants, c'est-à-dire qu'on peut quasiment se passer l'identifiant dans certains cas, il y a juste un petit ticket Kerberos qui traîne et qui est pas valide super longtemps. Et dans Windows 10, alors je crois qu'il y a que Alex Ioannescu pour l'instant qui a pu le tester parce qu'il a quand même monté ça sur une vraie archi physique pour y arriver. Mais dans Windows 10, ils vont pouvoir isoler de manière bien plus forte les process de sécurité, ce qui rend en théorie impossible la récupération des identifiants et des mots de passe qui traîneront en mémoire. En sachant qu'Alex Ionescu, encore une fois, a déjà a priori dumpé le process en question. Donc, ça sera toujours une petite course, hein, je pense, sur ce sujet-là.
Et pas de correct possible pour les versions antérieures à Windows 10 ?
De temps en temps, ils font tomber des patchs un petit peu en arrière. Ils l'ont fait hein, pour Windows 7, puisqu'on peut désactiver totalement les mots de passe en mémoire dans Windows 7. Mais ils activent rarement la fonctionnalité par défaut pour des questions de rétrocompatibilité pour éviter les incidents des clients virulents. Donc, peut-être ils le font, j'y crois pas. C'est quand même le jour et la nuit, hein, Windows 8.1, Windows 10, VS Windows 7. Donc, je pense pas qu'ils le feront. Mais ça peut arriver.
Ouais, enfin, tu sais, c'est la base des clients qui met la pression. Hein. Il suffit de regarder la. Je ne sais pas jusqu'à quand Windows 7 est supporté.
On a encore quelques années. Mais le principe, effectivement, il y a un gros client américain dont les initiales sont en trois lettres, qui de temps en temps fait pression sur ces sujets-là vers Microsoft. Et je crois que c'est un des seuls qui arrive de temps en temps à leur faire un petit peu changer les choses. Mais effectivement, c'est très rare. Je ne peux pas citer les exemples, mais j'ai eu vent de différents cases qui avaient été ouverts sur les mots de passe en mémoire il y a maintenant. C'était en 2011 quand même. Hein. Sur les mots de passe, c'était en 2011. Rien n'a bougé jusqu'à ce que un ou deux très très gros clients tapent un peu plus du poing sur la table et que Mimikatz soit dans les médias. Voilà.
T'as regardé ce que ça donnait dans d'autres OS clients ?
Oui, oui. J'ai un petit peu joué sur Nessus One. Alors pas beaucoup parce que je suis quand même plutôt orienté Windows dans ce que je fais. Mais histoire de calmer un petit peu les ardeurs de ceux qui étaient là, oh, mais c'est nul Windows, Mac c'est mieux, Linux c'est super, on maîtrise tout. Ben, lors de NoSuchCon, j'ai montré qu'on pouvait dumper tous les tickets Kerberos en quelques commandes, mais vraiment tous les tickets Kerberos d'un Linux et d'un Mac, d'un Mac OS aussi sur lesquels on peut faire du Kerberos avec Active Directory. Et même plus que sous Windows d'ailleurs, on a même plus de tickets facilement.
C'est des librairies par défaut ou des librairies particulières ou...
Alors sous Linux, c'est plutôt la librairie du MIT qui est utilisée, qui est open source. Hein. Mais surtout par défaut, par exemple, les tickets Kerberos sont dans TEMP, voilà, dans /TMP. Alors certes avec des droits restreints hein, quand même, faut pas coller, mais un petit root se fait plaisir, il les récupère. Voilà. Et sous Mac, c'est la librairie MDAL, une adaptation qui a été faite. Donc là, elles sont un peu plus isolées, mais sous Mac, je connais rien en commande Mac et Linux, mais j'ai trouvé deux, trois petites commandes, une petite boucle, qui est dans le contexte de l'utilisateur, permet de récupérer tous ses propres tickets et les mettre dans un répertoire, donc ce qui donne le même résultat. Voilà.
D'accord. Et t'as regardé d'autres architectures de gestion de droit que Kerberos ? Je sais pas comment on appelle ça.
Il doit y avoir certainement d'autres protocoles, puis après je me suis surtout attaqué à ce qui existait dans la vraie vie. Les imprimantes qu'on trouve les entreprises, elles gèrent NTLM, elles gèrent Kerberos. Des fois elles gèrent des protocoles Mac que je connais pas trop, mais ça s'arrête là. Donc c'est bien beau les tokens, les two-factor, etc. Mais ça le connaissent pas les imprimantes. Hein. Les NAS qu'on achète rue Montgallet non plus. Ça s'arrête assez vite. et même les NAS qu'on trouve dans les entreprises, qui sont souvent même moins évolués que ceux qu'on trouve à Rue Montgalet, ne supportent quasiment que ces deux protocoles-là, NTLM et Kerberos, et plus le protocole MAC de temps en temps. Mais voilà, il y a plein d'autres protocoles qui existent, il y a plein de meilleures solutions qui existent, de RFC ou de Draft, qui permettent de faire évoluer et changer ces choses-là. Mais c'est tellement implémenté que ça casserait beaucoup de rétrocompatibilité et qu'on se retrouve avec des choses non compatibles. Donc c'est un travail de très long terme que je pense que Microsoft a commencé. Je leur fais un petit peu de pub, mais Microsoft a commencé. Mais je l'avais un petit peu prévu en 2011, parce que je l'avais présenté, 2012 quand je l'avais présenté. Je pense qu'on verra rien de concret, d'abandon de ces protocoles d'ici 2020, clairement. Et encore, hein, je suis méga optimiste en disant ça.
Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus, parce que là tu parles, on va dire, du réseau d'entreprises classiques, et encore, Apple, ils ont leur propre protocole, donc AFP, mm-hmm. Apple Feeling Protocol, je crois.
Oui.
Et par contre, il y a quand même énormément de gens qui vivent dans le web. Et dans le web, tu as des protocoles complètement différents, avec de l'eau haute, des trucs comme ça.
J'ai demandé, ouais.
Oui, oui, dans Azure, dans les choses, c'est dans le cloud.
Non, mais, tout à fait, quand tu commences à faire de la fédération d'identité, bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises françaises qui aient déployé du Azure Active Directory, mais enfin, tu peux faire de la fédération d'identité, des assertions SAML, etc. Et là, c'est complètement différent. C'est juste probablement pas compatible avec ton imprimante, mais bon, qui a besoin d'imprimer au 21e siècle.
Oh, encore beaucoup de gens.
C'est que ton workflow n'a pas encore été dématérialisé comme il faut.
Oui, exactement. Il y en a encore beaucoup. Non, mais je dis pas qu'un jour ça changera. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui ont les gestions RH commerciales dans le cloud et qui en sont très contentes, bien sûr. Mais après, leur cœur de métier reste quand même sur des OS courants comme Mac, courants comme Windows, même du Linux, avec dans tous les cas tous les composants de rétrocompatibilité qui sont encore présents et activés par défaut, donc qui fonctionneront. Encore pendant un petit moment quand même, je pense, sur ces choses-là. C'est très amusant de voir que Kerberos, qui en ce moment s'en prend plein la tête, est même plus vieux que NTLM. Et pourtant, c'est considéré comme l'état de l'art dans le domaine Microsoft.
Oui, mais parce qu'en fait, le truc avec Kerberos, c'est que ça a été conçu au MIT à l'origine. C'est Kerberos V5 qu'ils ont implémenté, donc c'est quand même pas un protocole tout jeune. Et je sais même plus de quand date la V5, mais enfin du début des années 90. Et c'en est un point où, en fait, officiellement, dans les specs, seul DES est supporté.
Exactement, oui. C'est Microsoft qui est le plus grand, committeur de draft pour améliorer les choses et rajouter des fonctionnalités. Bon, évidemment, ils ont implémenté que ce que eux voulaient, ce qui les arrangeait. Mais c'est même Microsoft qui tire un petit peu Kerberos vers le haut en rajoutant des fonctionnalités, ouais.
Ils ont eu la PKX pour avoir l'authentification à carte à puce sur Kerberos. Ils ont rajouté le support d'AES dans Kerberos, etc.
Oui, ils poussent. Et c'était positif, ils ont bien fait. Ils ont même réussi à décréter que MD5 n'était plus un algorithme de signature. On peut pas les...
Oui, ça n'a jamais été un algorithme de signature. Mais...
Ah si, pendant très longtemps, du point de vue du MIT et de Microsoft aussi.
Et si ça peut te rassurer, j'ai pas regardé sur Yosemite, mais enfin sur macOS, il me semble que tu greppes la mémoire, tu trouves ton mot de passe en clair. Hein.
ça m'étonne pas, j'ai entendu parler de légendes avec Dexor qui suffisait aussi pour le trouver sur Linux. Il y a des petites choses comme ça. Mais après, j'ai pas ni le temps ni les compétences vraiment pour m'attaquer à ces OS-là. C'est sans fin après. Et puis après, les gens, j'aurai trop de points rouges sur moi quand je vais me balader, donc je vais arrêter. Mais dans les faits, il y a des gens qui connaissent bien mieux Mac et Linux que moi. J'espère un petit peu avoir lancé les idées ensuite pour que les gens, qui sont vraiment des vrais codeurs, moi je suis pas un vrai codeur, mais que les gens pondent des programmes qui font ça de manière automatique et bien plus efficace.
T'as déjà fait tourner ça sur des Windows Embedded, Windows CE, etc., des trucs qu'on rencontre sur des SCADA?
le CE, non. Parce que j'en ai pas eu l'occasion, puis c'est trop petit, les terminaux, c'est très chiant pour taper dessus.
T'as des beaux écrans tactiles où il faut appuyer bien fort.
Oui, voilà, et des stylets qui marchent à moitié, bon, et des drivers Wi-Fi qui plantent, voilà, donc ça j'aime pas. Mais après, des Windows Embedded, un Windows Embedded c'est rien de plus qu'un Windows que nous connaissons, qui a été un petit peu amélioré, donc d'un point de vue noyau et protocole, c'est exactement la même chose. Et par exemple, sur le Golden Ticket, qui est la création de tickets arbitraires à partir d'une petite clé, dans les faits, je peux attaquer un serveur Kerberos qui tourne sous Linux de la même manière. C'est pas propre à Microsoft. C'est pas l'OS qui compte forcément pour certaines attaques.
Honnêtement, sur Windows CE, je pense que Windows CE serait pas vulnérable parce que c'est une architecture qui est complètement différente, mais qui est aussi complètement obsolète. Il me semble qu'ils n'ont pas été au-delà de Windows CE 6 ou 6.5 peut-être.
Non, je crois qu'il y a eu plus. Il y a eu plus, mais dans les faits, effectivement, tu as raison. Il y a encore plus de chances qu'on trouve toutes les clés en mémoire en clair. Enfin, ça serait pas la peine de mener ces attaques-là, ça risque d'être pire.
Mais je crois qu'il n'y a même pas de LSAS hein, sur un Windows CE. Il n'y a pas de clé en fait. Il n'y a pas de mot de passe.
Il n'y a pas de multi-utilisateur, il n'y a rien, c'est pas fait pour. Mmh. Voilà. Et tout ce qui est stocké pour faire du single sign-on vers un partage Windows, parce qu'ils le font, hein, des choses de ce type-là, là, tu peux être sûr vraiment à 120% que le mot de passe traîne en clair quelque part.
Mais par contre, là, si j'ai bien compris, avec Windows 10 et tout ça, ils font la grande unification. Donc, avoir le même OS sur ton téléphone, ta tablette, ton système de cloud et ton PC à la maison, quoi.
Je serais très heureux. Alors, j'ai pas eu l'occasion de jouer vraiment avec des Windows Phone. Moi, je demande à Microsoft si vous m'offrez une tablette RT ou si vous m'offrez un téléphone Windows, je jouerai avec. Mais ça serait effectivement très amusant de voir un LSASS tourner sur ces plateformes, hein. Surtout sur le téléphone. Hein. Sur
la tablette. Le RT, t'as intérêt à dépêcher parce que je pense qu'ils vont dropper le support pour ARM.
Oui, tu as raison. Je suis content de pas avoir investi trop de temps dans IDEA pour ça.
qu'est-ce que tu veux nous? Qu'est-ce que tu as comme promesse pour les quelques mois à venir de développement dans Mimikatz?
Ah, c'est la question piège. Je promets jamais rien, je développe quand j'ai envie. Là, par exemple, ce soir, je pense, peut-être, je vais faire un truc qui convertit les Kirby en fichiers C-cache. Voilà, comme ça, pour le fun. Non, je développe tellement, on va dire, à l'arrache, hein. Je l'ai précisé à Corinne, j'ai pas de roadmap, j'ai rien. Donc, non, il y aura rien de codé dans l'immédiat. Après, je vais juste ajuster Mimikatz pour Windows 10 quand il sortira en version finale, en sachant que la version qui vient de sortir, c'est déjà terminée. Ouais, c'est juste de l'ajustement pour l'instant, parce qu'il y a pas, tant qu'il n'y a pas de réelle nouveauté d'un point de vue sécurité, entre guillemets, j'ai rien à coder. C'est, voilà, il me faut des nouvelles idées, il me faut un peu des défis. Donc, dans les prochains mois, en fait, c'est autour de Microsoft de jouer. Je jouerai après.
Peut-être mettre plus en avant les fonctionnalités qui peuvent servir aux défenseurs.
C'est la partie communication, je suis pas forcément le plus doué sur ces parties-là. Je suis même pas capable de faire une doc qui satisfasse Nicolas, donc.
En tant que le code est bien documenté, ça va. Bien commenté.
Je suis étonné que tu arrives à lire mon code, très honnêtement, Nicolas, parce que ouais, à certaines heures, j'y arrive pas.
Est-ce que justement, c'est peut-être le moment de lancer un appel à contribution? Est-ce que tu voudrais que des gens t'aident pour travailler ces aspects?
Bah, c'est ce que j'ai fait en le mettant sur GitHub, justement, c'est vraiment une plateforme collaborative. Et j'ai eu deux propositions, donc un qui me proposait de sauver mes fichiers C en Unicode parce qu'il doit être en Chine, et l'autre qui m'a changé une ligne parce que dans une version très spécifique de la Dell, ça a craché. Mais dans les faits, je suis assez étonné, parce que je l'ai pondu sur une architecture modulable où les gens peuvent vraiment rajouter des modules, ils peuvent vraiment se rattacher. Bah, malgré ça, personne propose. Alors, je sais que mon code est un peu imbitable pour mes aspects, mais dans les faits, ouais, je suis très 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 étonné que les gens, ne se créent pas leur propre version, simplement en la recompilant, alors que j'ai fait des efforts pour qu'ils puissent le faire facilement. Alors, il y en a qui le font, Nicolas, t'as raison, mais très peu quand même. Mais encore plus surpris que des gens ne sortent pas des versions alternatives.
Oui, mais enfin, tu sais, va faire un tour sur VirusTotal avec quelques signatures, je pense que tu serais surpris.
J'en ai vu, oui. Mais ça reste peu. Enfin, j'ai fait des statistiques à un moment, j'ai atteint un moment 1000 téléchargements par jour là-dessus, donc je vous dis le quota par rapport aux gens qui l'utilisent tel quel, par rapport aux gens qui participent, qui me font des propositions, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, hein, j'ai pas combien de mails par jour sur Mimikatz, mais il y a très peu de gens qui me demandent des fonctionnalités supplémentaires ou qui me font des remarques de fond, de forme, ils sont ah c'est bien, il y a peut-être un bug là, alors qu'il y a plein de bugs, hein, je code des fois, je vérifie pas grand chose, mais il n'y a pas de remarques de changement, de suggestions, c'est assez étonnant.
Mais est-ce que ça, c'est pas un indice justement que finalement plein de gens servent de Mimikatz pour faire de la course au décès?
Mais dans les faits, c'est l'utilisation principale hein, que j'ai vue. Ouais. L'authentification, enfin, dans les faits, le passe-doigt c'était très facile. Mais ce qui a marqué les esprits, c'est le mot de passe en clair, même si finalement c'est pas vraiment différent qu'un H, mais c'est visuel, un script qui dit, évidemment, il aime bien un mot de passe en clair, ça lui parle. Le Kerberos, un peu moins. Les gens, c'est un peu plus technique, Kerberos, donc ils ont un peu plus de mal à comprendre, mais effectivement, parmi tout le panel de fonctionnalités, les gens n'utilisent effectivement peut-être que les 10% qui leur parlent. Mais le reste, vu que je l'ai plus développé à la rigueur pour moi, pour jouer, pour tester, des fois il y a des routines de test hein, qui restent. Ce que les Tonki, je l'ai codé pour rigoler, parce que je trouvais ça nul que Dell ne partage pas son sample, donc j'ai codé le mien. Mais voilà, je fais un petit peu tout ça pour rigoler, donc je communique pas forcément toujours dessus, je le documente encore moins. Donc oui, les aspects sont plutôt sur l'aspect communication, documentation, et un peu promotion finalement des fonctionnalités. Alors sachant que ça me rapporte entre guillemets moi rien de le faire, je le fais pour rigoler, pour déconner, c'est vrai que j'investis pas forcément la même proportion de moyens pour sur ces aspects-là.
Ok, mais en tout cas, ce qui est intéressant, je pense, j'ose espérer que nos auditeurs, justement, vont à ce moment-là s'intéresser aux autres parties de Mimikatz, qui permettent de faire plein de choses, et ce serait bien qu'ils y jettent un œil aussi. Enfin, voilà. Ça, c'est en tout cas ma conclusion personnelle, là.
Oui, viens dès me faire des suggestions que je refuserai sur GitHub. Allez-y, venez.
Allez vous faire fouetter par le gentil kiwi.
Voilà, venez mettre à l'épreuve mon pseudonyme.
Des évolutions, il y en aurait plein à faire, hein, mais je pense à Responder, qui est un outil pas mal pour l'open test, qui permet de faire tout un tas de hijacks dans le domaine. Et tu pourrais envisager, par exemple, de récupérer des authentifications au travers d'IE, enfin rediriger du trafic IE, présenter des pages d'authentification, et ensuite faire du passe de hash derrière sur un serveur SMB.
Tu veux que je proxifie tout ça? Alors, et tu as raison, j'y ai pensé. Et en fait, c'est pas pour rien justement que le POC MS-14068 est en dehors de Mimikatz. Je ne tiens pas à coder une seule routine qui touche au réseau dans Mimikatz.
Oui, mais du coup, ça veut dire que les gens qui, enfin les pentesters, ils se retrouvent encore avec une boîte à outils où ils ont un outil pour faire un truc à gauche, un outil pour faire un truc à droite.
Ah, je cherche pas à remplacer Metasploit ni Metapreter. C'est vraiment. Après, rien ne m'empêche de sortir 2-3 exécutables à côté quand il y a des besoins spécifiques, ce que j'ai fait hein, pour Kerberos. Mais le codage réseau, pour moi, c'est quelque chose à part entière. Il y a pas mal d'outils réseau, alors peut-être pas Responder, mais on va dire qu'ils sont pas ownables. C'est-à-dire que l'utilisation d'un mal faite, un mauvais codage d'un outil réseau, surtout en C, l'attaquant peut se retrouver lui-même piraté.
Oui, mais ça, c'est pas nouveau. C'est comme le Syrian Electronic Army qui met sa distro sur Internet et on découvre qu'en fait, il y a un shell en PHP sur le serveur web. Enfin, le problème de tous les outils hors Mimikatz et K1 et Metasploit, on va dire, c'est que tous les autres, c'est du niveau preuve de concept, mais quand tu testes dans la vraie vie, ça crache, quoi.
Oui, c'est
Parce que
vrai.
des PWDump, il y en a eu 9 ou 10 différents. Mais
Ils crachent tous à un moment ou à un autre les DC pour une version
ils crachent
spécifique.
tous.
Oui. À un moment, il y a toujours une version qui crache sur une version de Windows. Ouais. Je les ai tous testés à une époque quand je cherchais à comprendre comment ça fonctionnait. Ouais, c'était costaud. Non, mais le réseau, j'ai un petit peu touché là pour Kerberos. J'en ai souffert, même si pour plein de gens, ils disent, mais arrête, tu as codé Mimikatz, ça doit être trop simple pour toi de faire un socket en Windows et faire sans resize. Ah, pour moi, c'est pas aussi simple que de parser la mémoire et de décoder ce qui traîne avec de l'AES. Voilà. Vraiment pas. Donc je touche pas vraiment au réseau, je m'en porte pour l'instant pas plus mal. Et en plus en bas niveau, ça fait appel à des librairies externes et d'empoisonnement réseau pour l'ARP, des choses aussi plates, des choses qui m'intéressent, hein, j'aime bien l'empoisonnement ARP qui fonctionne encore très bien. Mais ça alourdirait aussi beaucoup plus le programme et ça le compliquerait. Je cherche un petit peu à. Je me focalise un peu plus sur Windows et sur Kerberos en ce moment, mais c'est pour que ça soit bien fait dans les faits, plutôt que très généraliste et qu'on atteigne des modules que je ne toucherai pas ou je mettrai plus à jour. Il y a bien assez de codeurs en France ou qui s'expatrient qui pourraient s'y mettre quand même.
Mais le problème du pentest, c'est que t'es pas payé pour coder des tools.
Eh oui, très peu de temps.
T'es payé pour faire un truc sur un coin de table en 2-3 jours et tester une infrastructure de 10 000 machines en 4 jours et dire que c'est secure. Ou
Et
que ça
faire
l'est
un
pas.
rapport, Nicolas, très important.
Non, ça c'est dans la plupart des boîtes, c'est proprement automatisé. T'appuies sur un bouton.
La liste des correctifs qui manque, oui, je vois bien. Non.
Les couleurs dans les tableaux sont choisies automatiquement, etc.
Ah, ouais. Non, je comprends, mais c'est une problématique assez intéressante. Quand on a travaillé sur Pikec avec Bidor, c'est exactement ce qu'on est ressorti. C'est que les boîtes, à part quand la renommée du pentester est suffisante, donnent très peu de temps aux gens de sécurité pour faire de la recherche et investir sur des nouveaux outils qui pourraient être créés. Alors, on parle même pas de les maintenir, on parle déjà simplement de le créer.
J'ai cru comprendre qu'on ne pourrait pas te demander ce que tu faisais dans la vie, donc.
Je mange des kiwis.
C'est pour ça que tu as autant de temps pour coder. Je tiens quand même à dire que tous ces trucs-là existaient avant, hein, parce que il y avait déjà dans les années. Bon, la plupart des gens remontent ces attaques à Loft Heavy Industries, ce qui nous ramène dans les années 95-96, qui avait déjà pas mal travaillé sur LM, NTLM. En 2000, il y avait déjà des patchs pour Samba qui faisaient du credential forwarding, des trucs comme ça. Après, il y a eu des trucs, je sais pas si je t'avais parlé de ce site tbhero.net où le gars faisait des éditeurs offline d'AD où il pouvait extraire des infos. Et le problème de tous ces trucs-là, c'est que ça existait à une époque où il n'y avait pas une médiatisation de la sécurité comme maintenant. Donc les outils étaient confidentiels et se distribuaient de la main à la main entre les gens qui les avaient codés, quoi.
Oui, et heureusement, enfin, je peux le dire, hein, c'est aucune honte, on s'en est tous inspiré à un moment ou par un autre pour lancer les nouveaux outils. Clairement, le premier patch passe de H pour Samba, je crois que c'était en 97, hein, que j'ai vu les premiers échanges sur le sujet. Ça a été le point de départ pour tous. Et après, on a tous dit, ah, c'est logique. Et après, je crois que c'est même que le premier passe de H Windows, MSVCTL, est basé aussi dessus. Hein. Enfin, sur la compréhension, en tout cas.
Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien de s'en prendre à un individu quand c'est un protocole qui est vulnérable depuis 20 ans, quoi.
C'est difficile à comprendre pour des sociétés qui ont eu des... Mais c'est tellement plus facile d'avoir quelqu'un qui passe des fois dans des vidéos, qui fait des slides, de mettre un visage sur une menace, plutôt que remettre en cause un nombre d'architectes qui sont restés pour certains moins d'un an dans des sociétés. La gouvernance, vous savez ce que c'est, des choses rigolotes.
Quand tu regardes l'historique de MS-14-068, c'est quand même découvert dans la nature, hein. Alors que c'est une pure faille qui nécessite des semaines, voire des mois de développement, de reverse engineering, etc.
C'est même pire que ça, Nicolas. Quand tu regardes l'historique de MS-14-068, ça date de 2011, mais Microsoft l'a patché à moitié. Microsoft, la faille du MD5, qui est un algorithme de signature, le MIT l'a patché en 2011, je crois, en fin d'année 2011. Microsoft a dit, oh merde, on doit aussi l'avoir, nous aussi. Donc ils ont codé un patch, je crois, en tout début d'année 2012. Janvier, mais ils ont corrigé que la partie Kerberos, ils n'ont pas corrigé la partie KDC. Et vu que c'est pas les mêmes librairies chez eux, l'un n'a pas bénéficié à l'avantage de l'autre. Donc ça se trouve, ça fait très longtemps que c'était exploité, et que c'était quasiment public, puisqu'il y avait le patch du MIT qui expliquait quasiment comment faire. Mais le MIT, par contre, lui, était basé sur la même librairie, donc eux, ils corrigeaient. Donc c'est quand même assez... on va dire, c'est pas par la nature des gens qui ont investi beaucoup de recherche, même s'il fallait quand même le coder et faire quelque chose d'efficace avec ça, mais dans les faits, il suffisait juste de reverser ce qu'avait fait le MIT et de comprendre que Microsoft avait patché à moitié. Un petit coup de bin diff et c'était réglé.
Et si tu devais repenser complètement un protocole de contrôle d'accès à des ressources, etc., tu commencerais comment?
C'est pas le protocole d'accès qui est mauvais, Eric, très clairement. Kerberos, en soi, il est pas mauvais. Même l'utilisation du DES à l'époque, c'était un bon choix. Après, c'est juste que, en ce qui concerne par exemple Kerberos, c'est juste que Microsoft a fait un très bon travail pour faire que ça soit discret, que personne ne sache comment ça fonctionne dessous. Les gens qui veulent implémenter Kerberos sous Unix, ils s'en souviennent encore. Par contre, sous Windows, en installant le domaine, ils l'ont fait et ça fonctionne très bien de manière transparente. Donc, et le problème, c'est quelque chose qui est transparent, c'est qu'évidemment, si on ne sait pas que ça existe, ni comment ça fonctionne, on ne sait pas quoi protéger. On ne sait pas là où mettre des contrôles. Et finalement, ce qui est ressorti d'une réunion avec Microsoft sur le sujet, c'est qu'on leur a dit, mais on ne veut pas que vous changiez le protocole. On veut juste que vous nous donniez les documentations, les moyens, les paramétrages, pour qu'on puisse le régler exactement comme nous, on veut et on peut le sécuriser dans les entreprises. Y compris pour on veut pouvoir désactiver totalement le NTLM, mais pour de vrai. Pas juste en bloquant avec un firewall. Nous, on veut totalement pouvoir dire tel protocole, il est plus utilisé, et que vous l'utilisez pas de manière cachée dans un fichier pack. On leur a fait tout ça. Et ça les a beaucoup surpris, parce qu'ils s'attendaient effectivement à un nouveau protocole. On dit, ouais, on va vous prendre un nouveau protocole avec du two-factor, etc. On leur a dit, non, c'est ce qu'on veut, nous, c'est les moyens de contrôle derrière et les settings suffisants. Et pas que vous les sortiez et qu'on les reverse pour les trouver. Que vous donniez les moyens à des sysadmins moyens, entre guillemets, de régler de manière facile les protocoles et de les comprendre. Et ne serait-ce que ça, ça permettra beaucoup de choses. Quand j'ai expliqué Kerberos la première fois, le KerbTGT qui changeait jamais et quel est le rôle de cette clé-là, tout le monde est tombé de haut. Mais c'est dans le protocole, c'est marqué que ça fonctionne comme ça. J'ai rien découvert.
Et tu as déjà essayé de rédiger un guide sur la sécurisation d'un réseau d'entreprise?
Je vais faire la réponse, elle n'est pas politiquement correcte, Eric. Je vais la faire, mais ça me ressemble. Je ne suis pas payé pour. Et surtout, même à titre perso, je juge que je ne peux pas être bon sur la partie création de programmes, découverte, recherche. Enfin, ce n'est pas en passant ma vie dans IDEA et dans Visual Studio que je vais être bon pour penser une architecture. Chacun son métier, entre guillemets. Après, il faut qu'on se parle, évidemment. Les gens qui font ça, il faut qu'ils parlent aux architectes, sinon après, on continue à faire des bêtises comme ça a été le cas pendant des années. Mais ça peut pas être la même personne qui tient la plume.
Non, mais imagine, t'as une petite entreprise avec 50 ou 100 postes. Ils ont un serveur, deux serveurs, trois serveurs. Enfin, est-ce qu'il y a des conseils de base que tu pourrais leur donner?
Pas d'admin. Voilà. Non mais pour commencer, c'est pas d'admin. authentification physique et mise à jour au top niveau à chaque fois de tous les serveurs à chaque fois que ça sort. Alors pas le jour même évidemment, mais si Microsoft sort des nouvelles versions, ils sont pas connus justement pour descendre les nouvelles fonctionnalités dans les anciennes versions. 2012 R2, je suis désolé de le dire, c'est pas mal comme serveur à l'heure actuelle. C'est pas mal du tout et ça casse pas mal d'attaques de sécurité. Dans les faits, j'en vois quand même très peu appliquées. Et si j'en vois, ils sont à un niveau fonctionnel tellement lamentable que ça ne servit à rien de le mettre.
Alors, pas d'admin, tu veux dire quoi exactement?
Toi, tout le monde sait où tu travailles, donc on va pouvoir le dire. On va faire ça comme ça. Tu as certainement un ou plusieurs domaines. Sais-tu combien il y a de personnes qui sont admins du domaine? Il en faut des admins du domaine, mais il n'en faut pas 20, il n'en faut pas 30, il n'en faut pas 40. Combien de personnes
tu vois? Tu parles des personnes, là. Ok.
Oui, je parle des personnes. Les comptes admin, on ne peut pas les supprimer. Et encore que, on peut les désactiver dans les faits. Hein. On peut désactiver et ça peut être très bien fait. Mais voilà, c'est des choses où les gens n'osent pas le faire, désactiver un compte admin. Ils n'osent pas dire non, tu ne seras pas admin. Et oui, tu attendras demain que l'opération soit faite. Voilà. Mais c'est des choses qu'il faut savoir faire. C'est pas forcément le two-factor la solution. Hein. Le two-factor à la Microsoft, à la fin, ça donne un ticket Kerberos, vulnérable aux mêmes attaques. Ça sert à rien. Une carte à puce, à la fin, ça donne un ticket Kerberos, vulnérable aux mêmes attaques. C'est mettre les sauvegardes d'un DC, ça va pas sur le même endroit que les sauvegardes d'un serveur normal. On laisse pas des prestataires avoir des droits surélevés. On laisse pas des nouveaux arrivants, ou des petits jeunes, ou des chercheurs suisses devenir admin du domaine en France. Non, on fait pas.
C'est Nicolas le chercheur suisse.
Ouais, c'est un exemple, je n'ai pas dit.
Bah tu vois, t'y arrives, tu pourrais presque écrire le bouquin.
Je peux en faire quelques-uns, mais après l'idée c'est que oui, je connais la réponse de tout le monde d'ailleurs, oui mais c'est pas applicable dans la vraie vie, on a toujours fait comme ça, attends je déconne, mais on a souvent cette réponse là, hein. C'est pas applicable, il y a tel cas d'incident, oui d'accord, ça demande de changer les choses, c'est vrai, et pas que de manière technique.
Bon, et bien ce sera le mot de la fin. Benjamin, merci beaucoup de ta participation. Je vous rappelle que si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur blog.gentilkiwi.com. Voilà, on espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Salut.
Bye bye. Salut.